la parole à Pascal de Manon.
Chers camarades et amis, notre région, comme toutes les autres, est frappée par le chômage. Environ 11% de la population active est sans emploi, soit quelques 140 000 personnes à la recherche d'un travail. 80 000 autres seraient au RSA. Soit au total, plus de 200 000 personnes qui sont en situation de pauvreté dans la région. Et ce ne sera pas fini. L'actualité sociale, autrement dit, peut faire craindre le pire pour les mois à venir, avec le dépôt de bilan du journal Paris-Normandie, les fermetures annoncées de Emeril et d'Aldéo à Alizay, celles de Beauté Recherche et Production à Bernay, de Legrand à Mouville, et le projet de restructuration, voire de fermeture de Petroplus à Petite-Couronne. Voilà l'avenir que nous préparent les patrons de la région. Pour les travailleurs de l'Emeril, les lettres de licenciement sont attendues pour le 2 avril. La fermeture du site signifie quelques 700 emplois condamnés, 330 emplois de l'Emeril, 230 d'entreprises extérieures et plus de 150 emplois indirects. Le 24 février dernier, Sarkozy est venu faire sa pub électorale à Petroplus. Aux travailleurs de la raffinerie, il a clamé haut et fort, je cite, « Je suis quelqu'un de parole, c'est signé avec chef. » Mais il a oublié de préciser que l'engagement financier du groupe pétrolier ne sera pas de 20 millions d'euros, mais de 10 millions, peut-être, sur les 50 millions nécessaires au redémarrage. Et puis, la durée du contrat de 6 mois au minimum dans le discours présidentiel a été ramenée à 6 mois maximum par Shell. Le redémarrage, s'il a lieu, n'est donc envisagé, comme par hasard, qu'après le 6 mai, soit le jour du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et encore, puisque la direction de Shell précise qu'au moindre aléa technique, elle annulera le contrat. Et même qu'en cas de perte trop importante, elle se désengagera tout simplement. Voilà bien la démonstration que s'il n'est pas possible de faire confiance à la direction de Shell, il n'est pas non plus question d'accorder une once de crédibilité à ce que nous raconte Sarkozy pour les besoins de sa campagne. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'avec la fermeture de la raffinerie, ce sont 1500 travailleurs en tout qui risqueraient de perdre leur emploi, et ça, c'est inadmissible. La région a trop connu ces dernières années de suppression de postes, de licenciements, voire de fermeture d'entreprises. La liste est longue, trop longue. Je citerai le cas de Renault Sandouville, des sous-traitants de l'automobile tels que LPC à Colbeck, Siemens à Charleval, Johnson Control à Grand-Quevilly, GDX, Autoliv, Lille, Plastic Omnium, Cooper et tant d'autres. Les suppressions d'emplois ont touché tous les secteurs. Ceux de l'électronique et de l'électrique, avec Alcatel à eux, Tyco à Val-de-Reuil, ceux de la chimie avec Millennium au Havre, ici à Grand-Quevilly, de la pharmacie avec GSK à Évreux et Nufarm à Gaillon. Et ça, c'est sans compter les suppressions de postes opérées par l'État, dans l'éducation nationale, à EDF, à la SNCF. Par exemple, sous prétexte de réorganiser son trafic de marchandises, la SNCF se débarrasse progressivement de pans entiers de l'activité fret. Elle perd des triages, comme celui de Sotteville-lès-Rouen, tandis que des dizaines de milliers de nouveaux poids lourds empruntent tous les jours la route, ce qui est complètement aberrant. À Sotteville-lès-Rouen et sur Rouen rive gauche, 400 postes de travail ont été supprimés, 200 au Havre. Et pendant ce temps, sur le triage de cette ville, des centaines de locomotives et de wagons sont immobilisés dans ce qui est devenu un véritable cimetière de ferraille. Au CHU de Rouen, autre exemple, les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles, car depuis des années, la direction supprime des postes, ne remplace pas les départs ou les absences, et partout, les effectifs ne sont pas à la mesure de l'activité. Il manque ainsi, chaque jour, 800 personnes par rapport à l'effectif prévu par le CHU. Il n'est pas rare que des infirmières ou des aides-soignantes se retrouvent à travailler 3 ou 4 week-ends d'affilée. Les rappels sont des congés sur le lot quotidien. Et ne parlons pas des salaires. Métro, c'est trop. Et il arrive un moment où les travailleurs réagissent. Et c'est tant mieux. Comme aux urgences, par exemple, où ils ont réussi à obtenir la création de plusieurs postes ou dans le service maternité. Ailleurs aussi, on ne se laisse pas faire. Sarkozy a pu s'en rendre compte lors de sa visite mouvementée à l'usine de Renault Sandobyl fin 2008. Dans cette entreprise, des 6500 travailleurs qu'elle comptait en 2001, il ne reste plus que 2450 aujourd'hui. Il y a moins de 3 mois, la CGT de Sandobyl a révélé le contenu d'un document interne, ce qu'elle avait fait pareil la CGT à PSA. Eh bien, ce document secret n'était pas un secret pour tout le monde, puisqu'il avait été présenté aux actionnaires plus d'un an auparavant. Eh bien, dans ce document, la direction du groupe, Renault, planifie la suppression de près de 1100 postes d'ici 2015 à l'usine de Sandobyl. Et pourquoi? Simplement pour augmenter les dividendes des principaux actionnaires de Renault, comme s'il n'était pas déjà outrageusement bien servi. Depuis plusieurs années, et malgré tout ce qu'on peut entendre sur la prétendue morosité du marché, Renault a battu record de vente sur record. Ainsi, ces 8 dernières années, Renault a cumulé près de 12 milliards de bénéfices. Et c'est sans compter 12 autres milliards de trésorerie, c'est-à-dire de cagnotte. De plus, Renault, qui est loin d'être un pauvre, a toujours bénéficié des largesses, de l'assistanat de l'État, des régions, des pouvoirs publics. Dès le début de la crise 2008, plus de 3 milliards d'euros a été prêté à taux réduit à Renault, sous forme de crédits recherche développement, de déductions fiscales de toutes sortes, de bonus-malus, de primes à la casse, et j'en passe. Rien que la prime à la casse a coûté la bagatelle de plus de 1 milliard en 2 ans. Renault Cléon, l'usine où je travaille, est très bien servie, puisque la direction reçoit régulièrement des aides. Telle prochainement, 3 millions d'euros à taux zéro, 3 millions d'euros de l'État, sans compter des prêts à taux zéro, de 3 millions accordés par le Conseil régional et de près de 1 million d'euros accordés par la communauté de Rouen, dirigée par Sabus. Voilà pourquoi il est indispensable que les travailleurs puissent avoir le contrôle de l'utilisation de tous les milliards que possède Renault. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, ces milliards ne seraient pas perdus dans le jeu de la spéculation boursière, mais pourraient au contraire servir à financer le maintien de tous les emplois du groupe sans diminution de salaire. Il y a une minute, je vous parlais des réactions des travailleurs de l'hôpital aux méfaits de leur direction. Et bien justement, à l'usine Renault Cléon, depuis le 23 février, la veille des négociations salariales avec la direction, le mécontentement de tous s'accumule et même s'exprime. À l'appel de quasiment toutes les organisations syndicales, le 23 février, nous étions 200 à débriller le matin et autant l'après-midi, en cortège brillant et dynamique. Les intérimaires, restés à leur poste, souriaient, autant par sympathie que devant le spectacle ridicule des cadres qui essayaient de faire le travail. Le lendemain, jour chômé dans la plupart des secteurs, la direction annonçait des augmentations ridicules et une prime d'intéressement divisée par deux par rapport à l'année dernière. Ce qui se traduit par une nouvelle baisse du pouvoir d'achat de tous. Eh bien, en quelques minutes, nous nous sommes retrouvés à 130, essentiellement des camarades qui travaillent sur les chaînes de montage. Et à l'annonce qu'à l'usine de Renault-Saint, 300 ouvriers avaient arrêté la production, nous sommes partis en manifestation dans l'usine. Nous exprimions ce que pense la majorité, le ras-le-bol, l'injustice de voir les actionnaires s'engraisser sur notre dos, en augmentant leurs dividendes de près de 300%, en voyant les hauts cadres de l'entreprise s'augmenter de près de 60% en 2 ans. Depuis des années, nos salaires sont quasiment bloqués. Notre pouvoir d'achat dégringole année après année, alors que le travail devient pour tous de plus en plus pénible. Alors, ça ne peut plus durer. Mardi 28 février, plus d'une centaine de travailleurs de l'équipe de nuit ont de nouveau débrayé et sont venus diffuser à l'équipe du matin un tract d'appel à la grève. À 9h du matin, nous étions plus de 650 travailleurs arrêtés de travail, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps. À ceux des secteurs de production, s'est ajouté les travailleurs des bureaux et des services. L'après-midi, nous étions 500 manifestés dans l'usine. En tout, plus de 1300 travailleurs ont débrayé et manifesté au cours de la journée. Eh bien, le lendemain, on remettait ça à plus de 1000 ouvriers et employés. Nous avons voté un appel à des débrayages sur l'ensemble du site Renault pour le mardi suivant, le 6 mars. Et c'est ce qui s'est passé. La direction qui expliquait que seul le site de Cléon était touché par ce mouvement a dû s'en mordre les doigts. De nouveau, nous sommes retrouvés à 1000 en débrayage. Et c'est avec enthousiasme que nous avons appris les débrayages dans les autres usines, à Sandouville, à Lardy, au Mans, à Guyancourt. Décision alors a été prise de monter à Boulogne-Billancourt pour interpeller la direction générale avec les camarades des autres sites, et cela se fera mercredi prochain. Ce mouvement n'est pas encore le mouvement large, généralisé, déterminé qui serait nécessaire à la classe ouvrière pour inverser le rapport de force en sa faveur et ainsi imposer au patronat des mesures vitales face à la crise. Nous n'en sommes pas à des grèves et des manifestations puissantes. Mais il faut bien commencer d'une façon ou d'une autre à marcher dans ce sens. Aujourd'hui, nous nous engageons dans un mouvement de protestation pour relever la tête et clamer haut et fort que les travailleurs de Renault n'acceptent plus la situation qui leur est faite, ni les conditions de travail, ni les salaires. Les débrayages, c'est aussi l'opportunité pour tous ceux qui y participent, en particulier pour les jeunes ouvriers, de partager le mécontentement et d'échanger des idées sur ce qu'il faudrait faire. C'est au travers de toutes les discussions sur les nécessaires augmentations de salaire et les moyens pour les obtenir que les idées avancent, que la confiance dans nos forces revient et que se préparent les luttes de demain. Oui, face au chômage, aux menaces sur nos emplois, face à cette crise qu'on veut nous faire payer, vous voyez, les travailleurs sont loin d'être résignés.